pouvoir, et c'est encore le cas avec l'heure des prédateurs, est-ce que c'est parce que le pouvoir ou les hommes de pouvoir vous fascinent ?
Écoutez, je pense premièrement que les hommes de pouvoir et les femmes de pouvoir sont des sujets très romanesques. C'est pour ça qu'ils ont toujours été au centre de la fiction. Parce que mon opinion personnelle et mon expérience, c'est que plus vous montez dans l'échelle du pouvoir, plus les choses deviennent folles. Et plus on entre dans le royaume au fond des passions, de l'irrationnel, des pulsions. Et donc c'est un sujet en même temps important qui fait peur et qui est important pour notre société, mais qui s'adapte aussi assez bien à un traitement romanesque.
Et ce royaume des passions, des pulsions, de la violence, des prédateurs, donc, si vous le racontez si bien, c'est parce que vous avez le profil idéal.
Impoli, dans votre livre, vous voulez saisir le souffle d'un monde au moment où il sombre dans l'abîme et l'emprise glacée d'un autre qui prend sa place. Pour savoir qui sont ces prédateurs dont l'heure a, semble-t-il, sonné, vous avez le profil idéal. À l'âge de 22 ans seulement, vous êtes désigné homme de l'année par le quotidien italien La Stampa, juste après la parution de votre premier livre, Un grande futuro dietro di noi. Depuis, vos essais vous ont permis d'être considéré comme l'un des plus grands penseurs du contemporain. En 2019, dans Les ingénieurs du chaos, vous évoquez l'avènement de populistes comme Beppe Grillo, Victor Orban ou Jair Bolsonaro, qui utilisent les plateformes numériques pour attiser la colère contre les élites. Le Britannique Dominic Cummings, partisan du Brexit, a notamment atteint son objectif grâce à une tactique que vous décrivez.
Noi dobbiamo scoprire perché la gente è arrabbiata e poi dirgli che la causa è l'Europa. La tecnologia ci permette di farlo in modo individualizzato.
En 2022, votre roman Le Mage du Kremlin s'inspire de Vladislav Surkov, conseiller de Vladimir Poutine, personnage central dans son ascension. Il a mis en place ce que vous appelez la stratégie du fil de fer.
Si vous voulez casser un fil de fer, il faut le tordre d'un côté et puis de l'autre. C'est-à-dire, on va pousser pas que les suprématistes blancs, on va pousser les super woke et les mouvements LGBT les plus radicaux. Et on va créer du conflit le plus possible partout.
Après le chaos des insurgés en 2019, le chaos au pouvoir en Russie en 2022, aujourd'hui dans l'heure des prédateurs, vous évoquez l'hégémonie du chaos en vous appuyant sur l'exemple de dirigeants violents comme Donald Trump aux États-Unis, Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite ou encore Javier Milei en Argentine. À propos de Trump, vous précisez d'ailleurs qu'il ne lit jamais ni romans, ni essais, ni même les notes fournies par ses conseillers et vous ajoutez « Mais quelle importance ? Un environnement chaotique exige des décisions audacieuses qui captivent l'attention du public tout en sidérant l'adversaire. »
C'est au fond une figure très classique de l'histoire de la politique. Donc vous en avez vu moins en Europe et dans notre environnement au cours des dernières décennies. C'est pour ça qu'on les reconnaît plus tellement, on n'est plus tellement habitué. Mais en réalité, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire, un Tacite, un Svetone, ou un Machiavel ou un Guicciardin, et vous retrouvez ce profil de personnage qui est quelqu'un qui évolue dans un monde chaotique, sans règles, et dans un monde sans règles, dit Machiavel lui-même, la seule règle de conduite et d'action, c'est agir de façon décidée, en brisant toutes les attentes, si on veut, en surprenant constamment, en passant de sidération en sidération, pour imposer sa propre volonté, sa propre... Donc, il y a d'ailleurs une citation de Thucydide, donc 400 avant Christ, qui dit les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. C'est la règle des prédateurs.
Ouais. Alors vous écrivez que ce règne des prédateurs qu'on vit actuellement, en fait, c'est juste le retour de la normale, qu'au fond, l'état de droit, ce n'était en quelque sorte qu'une parenthèse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
C'est malheureux, bien entendu, mais la normalité que nous avons vécue, nous, Européens, au cours, encore une fois, des dernières décennies, l'idée de régler les relations entre différents pays, entre différentes sociétés, à l'intérieur de nos sociétés, par des lois, des accords, des transactions, cette tentative-là, qui était née au fond des catastrophes des guerres que nous avons vécues au cours du XXe siècle, eh bien, si on regarde l'histoire, effectivement, c'est une tentative qui est presque une parenthèse d'un certain point de vue, parce que ce n'est pas la norme de ce qui s'est produit dans l'histoire humaine.
Cette parenthèse, ce vieux monde qui s'éteint, vous le racontez aussi dans L'heure des prédateurs. Vous nous emmenez, on voyage beaucoup dans votre livre, vous nous emmenez d'un dîner de donateurs pour la fondation d'Obama à Chicago, à l'Assemblée générale de l'ONU, et on voit ce vieux monde légaliste s'éteindre, notamment par exemple à travers le dernier discours de Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU de septembre dernier. Quel a été le tort des démocrates? Pourquoi est-ce qu'ils ont, ceux qui croient en la démocratie, en quoi ont-ils échoué? Par naïveté, par légalisme, par prudence, pour ne pas résister ou ne pas voir arriver ces prédateurs, justement?
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a un tort politique, c'est-à-dire que en politique, quand vous vous concentrez sur la forme, vous êtes toujours exposé et plus faible par rapport à quelqu'un qui va venir en vous disant « Moi, je brise les règles, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Donc, moi, je m'intéresse, vous voyez, je veux régler le problème de la criminalité, je veux régler le problème du pouvoir d'achat, je veux... » Et je le fais en brisant les règles parce que les règles m'empêchent de régler ces problèmes. Et si vous n'êtes que dans la défense de la règle et de la forme, qui pourtant est la substance même de la démocratie d'un certain point de vue. Mais si vous n'êtes que dans ça, vous êtes évidemment en position de faiblesse par rapport à ces prédateurs qui vont dire non, on s'en fiche des règles. Après,
vous expliquez sur le Parti démocrate américain, c'est intéressant, vous dites que c'est un parti d'avocats. Ils sont
oui,
tous avocats.
Ben ça c'est d'ailleurs c'est un élément tout à fait choquant que voilà que j'ai détecté à partir de 1980, donc les dernières 45 années, le Parti démocrate aux États-Unis n'a présenté à la présidence et à la vice-présidence des États-Unis que des avocats, que des juristes. Tim Walz, l'année dernière, était la première exception. Et ça vous dit quelque chose, quand même, par rapport à cette attitude-là. Après, moi, le reproche que je leur fais, et je le dis au cas où vous ne me le demanderiez pas, c'est par contre de ne pas avoir régulé et de ne pas s'être occupé d'une autre catégorie de prédateurs qui sont les prédateurs de la tech et qui me semble par contre être un phénomène nouveau et très inquiétant.
Et qui sont bien sûr aussi très présents dans le livre. Et puisqu'on parlait des États-Unis, Anna, on ne peut pas éviter de parler évidemment d'un certain Donald Trump qui est, c'est vrai, assez disruptif et même au niveau du langage.
Ben oui, un langage simpliste, brutal, parfois vulgaire. Hier encore, il déclarait que tous les pays du monde, je le cite, venaient lui lécher le cul, kiss my ass, pour négocier des droits de douane. On l'a aussi entendu insulter les démocrates pendant la campagne présidentielle aux États-Unis et lâcher des slogans assez basiques comme celui que l'on connaît tous maintenant, drill baby drill, creuse bébé creuse, ou you're fired, avec le doigt pointé comme on le voit ici, vous êtes viré. Et même s'il a beau répéter qu'il est très instruit, qu'il a fréquenté une école de l'Ivy League, une étude américaine a démontré que son niveau de grammaire et de vocabulaire était équivalent à celui d'un élève de 6e, sauf que ce vocabulaire, il plaît à ses sympathisants qui apprécient son franc-parler et le fait qu'il arrive à casser les codes du langage politique. Alors vous, dans ce livre, vous dites que Trump ne lit jamais. On pourrait penser que pour un homme politique, c'est peut-être une faiblesse, mais est-ce qu'aujourd'hui, en ce moment, ça n'est pas plutôt devenu un atout ?
Oui, mais pour ce genre de personnage-là, ça devient un atout parce que, évidemment, ils ne sont pas pris dans tout le carcan de la, d'un certain type de vocabulaire qu'on identifie aujourd'hui aux élites, à l'establishment, et donc, au fond, qui est présenté par les prédateurs comme une arnaque par rapport à la classe populaire, à ses exigences qui ont été abandonnées, et tout ça. Vous savez, quand vous êtes, quand la perception de l'ordre établi est celle d'une arnaque à vos dépens, n'importe qui va venir brutaliser cet ordre avec d'ailleurs ce langage-là et les comportements de Trump, va être bienvenu. Même le chaos devient au fond un choix rationnel. Si vous pensez que l'ordre vous pénalise, qu'il est contre vous, vous allez préférer une intervention chaotique à la continuation de la même chose.
Et vous dites que le chaos qui était jadis l'arme des rebelles, maintenant est devenu l'arme des prédateurs justement qui sont au pouvoir. Mais comment Comment on en sort, Giuliano d'Empoli? Comment on en sort? Comment ceux qui croient encore à la démocratie en sortent? Est-ce qu'il faut juste attendre? Est-ce que c'est inéluctable? Ou est-ce que les défenseurs de la démocratie ont encore des armes, justement, pour repousser ces prédateurs?
Non, l'attente, je pense que dans ce cas, serait catastrophique, surtout au niveau européen, parce que nous n'y sommes pas encore tout à fait dans la Somalie numérique dont je parle, c'est-à-dire un espace numérique dans lequel bascule au fond non seulement le débat démocratique, mais la vie de chacun d'entre nous, parce que nous basculons de plus en plus dans cette dimension, et c'est une dimension où toutes les règles de la démocratie ne s'appliquent pas et où il n'y a que des seigneurs de la guerre qui font la loi sur la base de la force. Parce qu'on nous a expliqué qu'il ne fallait surtout pas y toucher, que c'était quelque chose, les politiques n'y comprenaient rien et qu'ils allaient casser la dynamique d'innovation qui se produisait là-dedans. Tant que vous acceptez ce discours-là, eh bien, tout ça va progresser de façon pratiquement inéluctable.
Et le premier antidote du Giuliano d'Empoli pour justement lutter contre cette jungle numérique et cette heure des prédateurs, et essayer d'y mettre fin évidemment, c'est de lire et de commencer par lire votre livre.
Ça peut être un bon début.
Oui, c'est un bon début. L'heure des prédateurs chez Gallimard. Merci.